Cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur vous convient. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Entre-temps, au niveau du culte, nous continuons notre série d'enseignements sur... notre thème, c'est quoi ? 10 leçons pour transformer nos déserts en oasis. Il ne faut jamais oublier ce thème, il ne faut pas oublier ce sujet. Je sais qu'il nous intéresse tous. Alléluia. Nous sommes en train d'apprendre à tirer le meilleur, le trésor des temps difficiles que nous traversons, ou que nous avons traversé, ou que nous allons traverser. La vie est faite d'épreuves et de moments d'abondance et de moments de grâce. Mais les temps d'épreuves ne sont pas souvent ce que nous croyons, ne sont pas des difficultés pour le plaisir de vivre des difficultés. Non, les temps d'épreuves sont des temps de grande formation. Amen. Et cette formation-là nous prépare au temps d'abondance. Alléluia. Mais même pendant l'épreuve, pendant que tu traverses les temps difficiles, il y a des choses glorieuses à apprendre. La quatrième épreuve, parce qu'il y en a en tout 10, c'est pourquoi on dit donc 10 leçons. Chaque épreuve transporte une leçon. Et dans une leçon, il y a plusieurs choses à retenir. Amen. Amen. Voilà. Une leçon n'est pas un seul point, n'est pas une seule clé. Dans une leçon, il y a plusieurs clés. Et nous sommes à la quatrième leçon du désert, c'est-à-dire qui correspond au quatrième désert, ou, si tu veux, à la quatrième forme que peut prendre une épreuve dans ta vie. Et cette épreuve-là, ce désert-là, est appelé quoi? Le désert comment? Le désert des longues attentes. En fait, cette épreuve se manifeste dans ta vie lorsque tu détiens une promesse et que cette promesse tarde à se réaliser. Pas les promesses d'un homme, pas les promesses des hommes, mais une promesse de Dieu. Tu sens dans ton cœur que le Seigneur veut réaliser certaines choses dans ta vie ou a prévu réaliser certaines choses dans ta vie. Et ce que Dieu a prévu faire dans ta vie ne se manifeste pas quand bien même tu crois que toutes les conditions sont réunies pour que sa faveur intervienne maintenant. Et malgré cela, tu ne le vois pas. On dit que tu es dans le cas d'un désert de longue attente. Amen. Amen. Et ce désert-là, donc, a trois caractéristiques. Quand je donne les caractéristiques, c'est pour nous permettre de reconnaître dans quel type d'épreuve nous traversons. Car à chaque type d'épreuve a son type aussi de clé et de solution. Donc, quand tu reconnais l'épreuve, tu sais comment la traiter. Amen. Comment traiter avec cette épreuve-là pour en tirer le meilleur. Et cette épreuve a ceci, c'est que je dis, premièrement, on attend longuement une promesse que Dieu a faite, une promesse dont on a la conviction que le Seigneur veut la réaliser. Amen. Deuxième chose, on est sous l'oppression d'un ennemi sournois appelé comment? Amalek. Alléluia. Je rappelle que cette histoire est tirée de la traversée du désert d'Israël. Lorsqu'Israël a traversé son désert, ils sont passés par ces différentes étapes sur le plan physique. Mais ces choses-là, cette histoire est une allégorie. Ça veut dire, ce sont des images desquelles nous devons tirer des leçons. Amen. Voilà, il ne s'agit pas d'aller revivre cela physiquement. Israël l'a vécu physiquement, mais à l'intérieur de ce vécu, il y a des leçons. Amen. Donc physiquement, une armée étrangère a attaqué Israël du nom d'Amalek. Et le sens d'Amalek, ou bien la compréhension de cette épreuve, de cette attaque-là, se trouve dans le sens même du nom Amalek, qui signifie quoi? Demeurer dans la vallée. Autrement dit, Amalek, c'est une pression morale et spirituelle qui te maintient dans un esprit bas. On va parler donc de dépression, d'angoisse, de pleurs, de crise de nerfs, en fait tout ce que vous pouvez citer qui vous maintient un moral bas. Quand vous attendez longuement un miracle de Dieu, vous êtes susceptible d'être attaqué par Amalek. Et aujourd'hui, on va revenir sur cet Amalek, amen, en citant et en développant la deuxième chose qui nous permet de terrasser Amalek. Mais Amalek n'est qu'un point dans le désert 4, amen. C'est un point sérieux, mais il n'est qu'un point. Il y a encore d'autres choses qui vont intervenir dans le désert 4. On a d'autres leçons qu'on va étudier les dimanches qui viennent. Amen. Donc, cette situation morale, la dépression, l'angoisse, la peur, l'impatience, la colère ou l'irritation qui peuvent se lever parce que Dieu tarde à venir, est survenue dans la vie de tous les hommes de Dieu, y compris même Jésus. Jésus a été attaqué par Amalek. Donc tout le monde est ou sera attaqué ou a été attaqué par Amalek. Et devant Amalek, je dis tantôt, il y a des clés et nous parlerons aujourd'hui d'une de ces clés. Amen. Mais Amalek va nous pousser vers la troisième caractéristique du désert 3. Donc j'ai dit que le désert 4, c'est le désert des longues attentes. Donc la vertu dans la parole de Dieu qui permet à une personne d'attendre longuement s'appelle simplement la patience. Amen. Il faut être patient. La date de l'accomplissement de ta promesse est fixée. Maintenant, tu es impatient lorsque tu murmures. Tu es impatient lorsque tu te décourages et tu vas chercher d'autres solutions qui ne sont pas les solutions que Dieu t'aurait présentées. C'est de l'impatience. Tu as de l'impatience quand tu te décourages. Tu manifestes de l'impatience quand tu baisses les bras et que tu abandonnes toutes choses. Ça aussi, toutes ces choses-là sont définies comme étant de l'impatience. Tu n'as pas su attendre. Et cette impatience-là sera poussée à bout par cet esprit dans les airs qu'on appelait Amalek. Et Amalek, et c'est là que tu vas voir la troisième caractéristique du désert 4, le troisième élément qui t'amène à savoir, à comprendre que tu es dans le désert 4, c'est que Amalek va te pousser à aller prendre des décisions et à faire des choix dangereux. C'est-à-dire, Amalek va t'amener ou va te poser des solutions quelquefois rapides à la situation que tu traverses. C'est dans ce cadre-là que nous avons cité l'exemple d'Abraham, qui sous la pression de la longue attente, Abraham attendait la promesse de Dieu selon laquelle il devait être le père d'un enfant et le père de multitudes de nations. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Face au découragement de lui et de son épouse, sa femme va lui proposer, va avec ma servante Agar et tu vas avoir un enfant. Et effectivement, Abraham va écouter la voix de sa femme. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils vont avoir un enfant. Et cet enfant-là va devenir une carie, un problème dans la promesse d'Abraham. Et donc Ismaël va combattre dans leur descendance, dans leur jeune âge, ses frères. Mais dans leur descendance, leurs descendants vont se battre. Ismaël va engendrer tous les peuples arabes. Isaac va engendrer les peuples hébreux. Donc les Arabes ne supportent pas les Israéliens. Je n'ai pas dit tous les Arabes, mais en termes généraux, les peuples contre les peuples s'affrontent depuis très longtemps. Et tout ça, c'est dû à une erreur d'Abraham. Il est allé trop tôt chercher la promesse. La solution qu'on lui proposait n'était pas celle qui vient de Dieu. Et ça, là, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie aujourd'hui. Il y a des années de cela, j'ai été confronté donc au désert 4 de plusieurs façons. La première, dimanche dernier, je vous avais donné l'exemple de mon histoire avec mon épouse. Amen. Là, épreuve 4, par la grâce de Dieu, je crois que j'ai réussi. Je ne me suis pas dispersé, je ne suis pas parti chercher une autre sœur. J'ai patiemment attendu que la promesse se réalise. Amen. Amen. Et après près de 4 ans d'attente, mon épouse Liliane et moi, nous sommes mis ensemble, nous sommes mariés aujourd'hui. Gloire à Dieu, nous avons 4 merveilleux enfants et on bénit le Seigneur et on est heureux. Amen. Mais il m'a fallu attendre. Là, au moins, j'ai réussi. Mais il y a d'autres épreuves. L'épreuve 4 est revenue dans ma vie sous la forme financière. Et là, j'ai échoué. Dieu m'a dit, j'ai la promesse, mon épouse aussi a la même promesse, qu'il allait nous donner les moyens pour financer l'œuvre de Dieu. Les croisades, les campagnes. Donc, à cette époque, on évangélisait, mais pas avec l'ampleur qu'on a aujourd'hui comme campagne d'évangélisation. Et on avait vraiment besoin de beaucoup d'argent pour mener la campagne. On s'est dit, le moyen que Dieu va choisir, c'est sûrement qu'on fasse des affaires. Et moi, je vais me consacrer à la parole de Dieu. Elle va se concentrer sur les affaires. Et elle a eu un très bon marché, une très belle idée avec une commune d'Abidjan. C'est vraiment, c'était la gloire, quoi. C'est-à-dire que la marge, c'était béni. On allait pouvoir faire beaucoup d'évangélisation avec ça. Dans la période d'attente de la promesse, c'est laquelle? Ce n'est pas qu'on va avoir le marché
de la mairie.
Non, la promesse, c'est que Dieu nous donnera les moyens de réaliser la mission. Ça, c'est la promesse. Alléluia. Et je vous rappelle une vieille alliance que j'ai avec le Seigneur, c'est que Dieu m'a dit de ne jamais demander l'argent si je suis dans le besoin. C'est-à-dire, si j'ai quels que soient mes problèmes, il ne faut pas que je m'assoie devant une personne pour dire, frère, prête-moi ou donne-moi. Moi, je n'ai pas le droit de faire ça. Peut-être que toi, tu peux faire ça, mais pas moi. Amen. Quand Dieu me dit, quand tu as un besoin, tu pries, tu me demandes. Et pour lancer ce commerce, pour lancer, pardon, ce projet, cette entreprise, on avait besoin, effectivement, d'argent, de plusieurs millions. Et dans ce même temps où nous attendions, nous prions, mais comment tu vas dire ces promesses? Pourquoi c'est si petit les marchés là? Seigneur, glorifie ton nom. Dans cette période, un ami que j'ai rencontré semblait être la réponse providentielle divine à mes attentes. Il va arriver, il va me proposer, pas me concernant, mais concernant les frères de l'église. C'est un bon frère, celui qui m'a proposé ça, il est bien. Il dit seulement, pasteur Mohamed, s'il y a quelqu'un dans ton église qui a des problèmes financiers, qui a besoin de financement, vois-moi. Dieu m'a fait grâce, j'ai quelques fonds, je vais créer le fonds qu'on va mettre pour aider l'église. J'ai dit ok, sans trop écouter. Et un jour, nous nous sommes retrouvés dans une circonstance, dans une situation, et je l'ai vu devant quelqu'un qui lui a posé un problème, comme c'est mon ami, on était ensemble, puis quelqu'un lui a posé un problème. Sur place là, en moins de 3 jours, il a sorti plus de 40 à 50 millions pour financer des projets. Rapidement comme ça. Je dis, ah? Est-ce qu'il n'est pas l'exaucement de ma prière? Mais il n'a pas dit, toi pasteur, si tu as un besoin, viens me demander. Il a dit en général. Et j'étais tenté donc de le voir pour lui dire, frère, j'avais besoin au moins de 10 millions. J'ai besoin de 10 millions. Si je dis j'ai besoin de 10 millions, je manque de respecter mon alliance avec le Seigneur. Donc j'ai réfléchi. Je dis, de toute façon, ce n'est pas moi qui ai vraiment besoin de l'argent. C'est ma femme qui a besoin de l'argent. Du genre, ma femme et moi, ce n'est pas pareil, quoi. Et là, je prie, je reçois rien. Dieu ne me dit rien. Et quand c'est comme ça, quand vous êtes dans cette situation, il faut rester calme et attendre encore. Je n'ai pas attendu. J'ai fait comme Abraham. C'est sa femme même, Sarah, qui a proposé à Abraham, va, sors avec Agar. Lorsque Israël était en train d'attendre dans ce passage, c'est vrai, c'est le peuple, mais le peuple est parti voir un homme de Dieu. Ils sont partis voir Aaron pour dire, Aaron, fais-nous un veau d'or. C'est-à-dire, tu as des conditions autour qui te semblent être légitimes dans l'obtention de ce que tu veux rapidement. Et bon, moi, j'appelle à mon épouse, on est tous deux d'accord. Parce qu'en ce moment, c'était la galère. Et 10 millions comme ça, franchement, tu n'as pas envie de laisser ça passer. On a prié, Dieu ne nous a rien dit. C'est comme le cas d'Abraham. Il ne sait pas s'il a prié ou pas, mais il n'y a pas eu de réponse pour lui dire, ne va pas vers Agar. Et je suis parti, j'explique à mon ami, il dit, mais c'est toi, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit ça, je crois, le lendemain. 10 millions. Ces 10 millions ont été une carie dangereuse dans nos dents. Tout ce qu'on a bâti, parce qu'on a acheté du matériel pour répondre au marché, mais on a tout perdu et on s'est retrouvé pour 10 millions et puis d'autres problèmes en sorte qui ont suivi nous autour. On s'est retrouvé à un moment donné avec près de 50 millions de dettes. Mais problème sur problème. Et le dossier était bloqué juste pour quelqu'un dans une administration qui devait signer une autorisation, une petite signature pour nous autoriser à faire ce type de marché. Et les gens étaient d'accord. Et ça nous a tourné comme ça. Oh. Voilà maintenant, l'argent n'a pas porté du fruit. Il n'y a pas eu de rentabilité. Il faut rembourser. Et voilà des années. Vous savez donc, l'entreprise est née avec les 10 millions. On a acheté le matériel avec les 10 millions. Mais au lieu d'être pour nous une bénédiction, ça nous a combattus. Ça ne nous a pas fait du bien. Parce qu'il y a d'autres entreprises qu'on avait engagées après dans le processus, qui, elles, nous ont confié, nous ont donné de l'argent. On n'a pas pu réaliser leur marché. Parce qu'on n'a pas pu réaliser leur marché, on s'est trouvé leur devoir aussi à eux. Et eux, ce n'est pas mon ami. Eux, ils ne sont pas mes amis. Ils nous ont envoyé les huissiers. Mon ami, lui, il était patient. Il a dit, bon, quand tu vas t'aider, on va voir. Mais les autres, eux, ils ne connaissent pas ça. Les huissiers, ils ne connaissent pas pasteur. Il m'a dit, non, c'est pasteur Sanogo qui est derrière. On ne connaît pas pasteur ici. Et il fallait rembourser tout cela. Voilà, vous voyez, Dieu vous a fait une promesse. Vous commencez quelque chose qui est censé vous faire rentrer dans la promesse, mais cette chose-là devient votre pire ennemi. Alors, ce genre de projet, d'idée, d'initiative qui naît, la Bible les appelle Ismaël, dimanche dernier, j'en ai parlé sous un autre angle, mais la Bible appelle Ismaël, ce sont les enfants qui ressemblent aux enfants de la promesse, mais qui ne sont pas les enfants de la promesse. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas l'exaucement de Dieu, c'est un raccourci. Quand tu es tenté, quand Dieu t'a promis une grande entreprise, quand Dieu t'a promis un certain foyer, quand Dieu t'a promis certains choses que cela t'aide à se réaliser, quand tu vas te marier, avant de rencontrer le bon mari, on te proposera un autre mariage qui est une forme d'arrangement bizarre. Comme tu vois, ce n'est pas trop clairement dans la parole de Dieu. Parce que me concernant, l'alliance que Dieu m'avait donnée, non seulement Dieu me l'avait donnée, mais elle était aussi vraie pour mon épouse. Parce que nous sommes mariés. C'est l'erreur dans laquelle est tombé Abraham. Dieu a dit à Abraham, ta descendance, je bénirai ta descendance. Et ils ont coupé le passage en deux. Sarah s'est exclue de l'alliance. Elle dit, Dieu n'a pas dit à moi, Sarah, que je vais avoir un enfant. On a dit que Abraham, tu auras un enfant. Donc, tu n'es pas obligé, ce n'est pas obligé que ce soit par moi. Mais madame Sarah, maman Sarah, tu oublies que Abraham et toi, vous formez un. C'est à moi, parce que Sanogo, on a dit, tu ne vas pas demander. Dieu n'a pas dit ça à ma femme. Mais j'oublie que le jour où j'ai dit oui devant le maire, elle et moi, devant Dieu, nous sommes devenus une personne. Donc ce qui est alliance pour moi est aussi alliance pour elle. La promesse de Dieu à Abraham tient aussi pour Sarah. Maintenant Sarah dit, non, moi je m'exclus de la promesse, va avec Agar. Le plus important c'est que Ismaël c'est ton enfant. Les promesses de Dieu sont attachées dans certaines conditions. Amalek va vous amener à dribbler les conditions, à biaiser les conditions, à ajouter certaines choses qui, au lieu de vous bénir, demain vous détruiront. Dis à un voisin, sois patient. Amen, amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Il faut patienter. La patience est une richesse, et on l'a dit la dernière fois. Juste quelques éléments pour que ce soit clair dans notre esprit. Amen. Pourquoi on doit être patient? Pourquoi Dieu nous fait attendre? Je l'ai dit la dernière fois, je le redis rapidement. Parce que toutes les choses sur cette terre possèdent un temps propre avant leur éclosion. Amen. Honorez ce principe immuable et vous deviendrez sage, vous réussirez. Amen. Amen. Je vous expliquais cela longuement dimanche dernier. Tout ce que Dieu crée, une parole que Dieu donne, un rêve que Dieu te donne, a dans son sein un temps, une saison, un temps. Quand tu tombes enceinte, madame, il y a un temps pour que l'enfant que tu viens de recevoir voit le jour. La patience, il faut savoir, ce n'est pas un temps d'attente pour attendre. La patience, c'est juste le temps de laisser, c'est juste l'art de laisser faire le temps qui est prévu pour une telle ou telle semence. Voilà ce que Dieu dit à Habacuc. Il dit, voilà la promesse, elle est certaine, elle va s'accomplir. Si elle tarde à attendre, il dit ceci, la date est fixée dans la promesse. La date est fixée. Alors, donc, y compris les promesses, elles contiennent un temps. Les paroles de Dieu contiennent un temps. Quand Dieu dit, je te lèverai, tu seras chef d'État dans cette nation. Si Dieu te le dit, il y a un temps là-dedans. Si avant le temps de l'accomplissement de ce qu'il a dit, tu vas faire des alliances, tu vas faire des trucs politiques bizarres, tu vas enfanter des Ismaël qui te combattront. Si plus tard, tu vas finir par une présidente, mais toi-même, tu vas engendrer. Ça veut dire, tu vas t'allier avec, tu vas faire des alliances avec des gens. Avant la promesse, tu dis non, pour favoriser l'accomplissement de la promesse, je vais aller faire des alliances. Les alliances là te combattront au temps de ton héritage. Ismaël combat Isaac jusqu'à aujourd'hui, les Arabes combattent. L'enfant spirituel de Ismaël, c'est l'islam. L'enfant spirituel de Isaac, c'est le christianisme. Tout le Moyen-Orient, la zone asiatique, a été conquis. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de chrétiens là-bas. L'Afrique du Nord était une zone chrétienne. Aujourd'hui, elle est devenue une zone musulmane. D'où vient un tel combat? Pourquoi cette religion a une telle puissance? Parce qu'en elle coule le sang, un demi-sang de la promesse. Vous me suivez? Ça veut dire qu'il y a aussi Abraham là-dedans. Donc, ce que tu vas engendrer qui va te combattre, ça sera puissant parce que toi, tu es puissant. Je ne sais pas si tu comprends. Comme Dieu a dit que tu seras puissant, ce que tu engendres qui est mauvais sera puissant. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire, la puissance de ce qui va te combattre vient de toi. Parce que Dieu t'a rendu puissant. Et tu es parti engendrer une entreprise qui n'était pas la bonne. Tu as fait une alliance qui n'était pas la bonne. L'alliance sera puissante. Ce n'était pas le plan de Dieu, mais ça sera puissant. Et ça va te fatiguer. C'est pourquoi mon endettement a duré aussi longtemps. Donc, non, j'ai duré pour payer ça. Hein? Ah oui! Parce que j'ai l'onction. Donc, même mes erreurs transportent l'onction. L'onction de Dieu est sur ma vie, c'est rentré dans mes erreurs. Vous me suivez? Abraham était loin de Dieu. C'est pourquoi Ismaël porte une onction sur sa vie. Dieu a dit à Abraham qu'il allait prospérer. C'est pourquoi les tribus qui descendent d'Ismaël sont riches. C'est une promesse d'Abraham. C'est une promesse qui est sur Abraham. Parce que Ismaël, c'est l'enfant d'Abraham. Mais Ismaël, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Vous comprenez? Tu peux avoir un enfant, mais ce n'est pas ce que Dieu t'a promis là. C'est autre chose. Tu as eu ça avant l'accomplissement de ta promesse. Tu n'as pas su attendre ta promesse. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Dis Ismaël, je n'autorai pas. En tout cas, je n'ai pas d'Ismaël. Amen. En tout cas, donc moi dans le domaine des affaires, j'ai engendré Ismaël. Mais gloire à Dieu. J'ai traité Dieu à faire disparaître Ismaël à sa façon. Amen. Je dis Dieu fait grâce. Il nous arrive à tous de faire des erreurs. Si vous reconnaissez vos erreurs, moi, je me suis humilié, je me suis repenti. Je dis Seigneur, j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû rentrer dans cette alliance. Pardonne-moi. Bon, cette semaine-là, je n'aurais pas dû prendre cet argent. J'ai oublié tes promesses. Je me suis humilié, j'ai demandé pardon au Seigneur. Il m'a fait grâce. Il a disposé le cœur de toutes les personnes à qui je devais. Et elles m'ont donné de la geste. Plusieurs me sont venus dire, mais c'est même pas la peine. Et en quoi, 4-5 ans, tout est passé, tout est fini. Et j'ai béni Dieu, j'ai été libéré. Ça m'a pris un peu de temps, mais gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ceux qui ont engendré des Ismaël, que Dieu dans sa miséricorde vous délivre des Ismaël que vous avez eu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Non, mais il faut que je te raconte mon histoire pour ne pas que tu ne peux pas croire que les pasteurs sont des superman. Et toi, tu as eu beaucoup d'Ismaël. Il y en a qui n'ont pas un seul Ismaël. Ismaël, côté familial. Ismaël, entreprise. Ismaël, bon, je ne sais plus encore dans quoi. Amen. Donc, il faut vraiment attention. Alléluia. Donc, toute promesse a un temps. Il faut savoir attendre le temps. Quand Dieu vous fait attendre, l'objet de votre patience est un prétexte pour vous rendre meilleur. Quand Dieu te fait attendre, ça t'améliore. Alléluia. Et quand Dieu te fait attendre, ce pourquoi tu attends devient puissant avec le temps. Si Dieu te dit, je bénirai tes affaires et tu atteindras le monde. Et puis là-dessus, tu vois que ça tarde à se manifester. Tu as des affaires, mais c'est lourd, ce n'est pas ce que tu as vu, ce n'est pas la promesse. Tu regardes ta vie, ce n'est pas que tu as engendré des Ismaël, ce n'est pas que tu as fait des fausses alliances, ou bien tu as failli faire, tu t'es ressaisi, etc. Ok? Mais Dieu te fait attendre. La période d'attente est juste un temps de cumulation de puissance. Parce que ton projet plus tard va affronter de grandes adversités, va atteindre de grandes nations, va toucher beaucoup de gens. Il a besoin d'un temps de gestation plus long. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Si un enfant sort prématuré, il est vulnérable. Il faut beaucoup plus d'attention pour le maintenir en vie. Lorsque le temps qui est dans l'enfant est accompli, c'est-à-dire 9 mois dans le sein de sa mère, lorsqu'il sort, il est beaucoup plus solide. C'est pareil. Si ta vision paraît avant le temps, elle sera plus fragile. Mais si ta promesse se réalise en son temps, et je t'assure que tu n'as pas à forcer le temps. Le temps ne se force pas. On a jusqu'à attendre. Tu ne vas pas te concentrer pour qu'un mangué donne sa mangue. Tu comprends? Il n'y a pas à aller prier devant. Mangué, s'il te plaît. Si c'est un mangué, les mangues vont sortir. Je t'assure que ce n'est pas Anana qui va sortir du mangué. Pas Anana. Un fruit, c'est du domaine du naturel. C'est juste qu'il faut le temps. Donc, si Dieu t'a donné une grande entreprise, on ne peut pas faire autrement. Cela arrivera. Si Dieu dit que le ministère qu'il t'a donné va atteindre les nations, tout ce que tu as à faire, c'est attendre que le temps s'accomplisse. Parce que quand ça va venir, on ne peut rien faire. Et ça ne peut pas produire autre chose. Parce que le jour où Dieu t'a donné la promesse, c'est une semence qu'il a jetée en toi. La graine qui est partie en toi, il a dit, grande entreprise prospère. La grâce est partie. Ça ne peut pas donner petite entreprise misérable. Il y a une semence qui est en toi. Donne le temps à la semence. Je ne veux pas que tu oublies ça. Donne le temps de croître. Elle va sortir tôt ou tard. Amen. Amen. Donc encourage un voisin, tu patiente encore. Alléluia. Alléluia. La patience va vous donner une meilleure maîtrise de vous-même. Et la maîtrise de soi vous aide à conserver vos talents spirituels, vos dons. La patience va vous donner un bonus au ciel. Les chrétiens patients auront des bonus. Quand tu arrives au paradis, on a beaucoup de sauvés. Mais toi, on dit, non, ta patience tient. Bonus. Amen. Alléluia. On voit ça dans Jacques chapitre 1, verset 12. Amen. Amen. Donc, pendant ce temps de longue attente, pendant ce temps d'attente, faut-il se tourner le doigt, le pouce? Non. Il y a certaines choses à faire. Et les choses à faire pendant le temps d'attente sont justement les clés du désert 4. Amen. Nous avons cité à peu près deux clés, si on veut dire ainsi, deux. La première des choses, c'est qu'il faut savoir qu'il faut être patient. Si tu sais ça et que tu acceptes et que tu mets dans ton agenda la notion d'attendre qu'un arbre donne son fruit, si tu le mets dans ton emploi du temps de ta vie, ça ne te paraîtra pas si long parce que tu as inclus ça dans ton programme. Que tu ne connais peut-être pas le temps de ta promesse à toi, mais certainement elle s'accomplira, tu vas juste attendre. C'est la première des choses pour réussir l'épreuve 4. Amen. Alléluia. Deuxième chose pour réussir l'épreuve 4, et ce sur quoi on va parler aujourd'hui encore, c'est ce que j'ai commencé. C'est la deuxième chose, mais en fait, c'est ce que je l'avais déjà commencé. C'est Amalek. Amen. Triompher de cette dépression. Et la dernière fois, on avait expliqué comment Moïse avait fini par vaincre Amalek. Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, je vais insister sur la deuxième attitude qu'il a eue. Qu'est-ce que Moïse a fait? Lever. Moi, quand je pose la question, vous ne répondez pas comme ça, ça m'inquiète quoi. Il a levé les mains et à un moment il était épuisé. Aaron et Hur l'ont fait asseoir sur un rocher. Amen. Et il a pu maintenir les mains levées. Donc Amalek, j'ai défini tout à l'heure ce qu'est Amalek dans votre vie. Amalek va vouloir vous faire rester dans le désert et c'est Amalek qui va vous pousser à aller faire d'Ismaël. C'est Amalek qui va vous pousser à faire de mauvais choix à cause de la pression qu'il met contre vous. Amalek ne se terrasse pas de beaucoup de manières. La même stratégie doit être utilisée contre ce vent qu'on appelle Amalek. Tu as décidé d'être patient, mais quand tu es patient, malgré le fait que tu sois patient, il va y avoir des temps où tu seras vraiment tenté de déprimer, d'être angoissé et de désespérer. Quand tu es dans un moment où tu n'es plus trop motivé et que tu es presque désespéré, c'est qu'Amalek est en train de travailler. Alors, ne vois pas ça comme étant étrange. C'est là arrivé à Jésus, c'est arrivé à Moïse, ça arrive à tous les hommes de Dieu. Sauf que lorsque Amalek, lorsque le découragement, lorsque la détresse, lorsque le stress, lorsque la pression morale est arrivée, les hommes qui ont eu la victoire ont agi d'une certaine façon. Et cette façon de faire n'est pas compliquée. Tu peux la faire. On la voit dans l'attitude de Moïse. Mais l'attitude de Moïse, comme je l'ai dit tantôt, c'est une allégorie. Ça veut dire que c'est juste une image pour qu'on apprenne une leçon. Premièrement, Moïse est monté sur la montagne et pour que Israël ait la victoire, il a levé les mains. Dis avec moi, levé les mains. Et je vous ai expliqué dimanche dernier ce que ça signifie lever les mains. Qu'est-ce que ça signifie? Invoquer le Seigneur. C'est comme un enfant qui appelle son papa, qui appelle sa maman. Prends-moi, prends-moi. Ça ne va pas. Je veux être dans tes bras. Alléluia. Et on a lu plusieurs psaumes qui disent de la détresse, invoque Dieu. Et Moïse, et Jésus-Christ aussi, lorsqu'il s'apprêtait à aller passer par la croix, il a été attaqué par une forme de pression morale. La Bible dit qu'il était même dans l'agonie. Jésus a dit, je suis triste. Donc, vous sentez par son état moral la présence d'Amalek. Amalek est en train de travailler. Mais comme Moïse, Jésus aussi est monté sur une montagne et il a invoqué Dieu toute la nuit. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça. Donc, physiquement, c'est comme si on levait les mains, mais spirituellement, on n'a pas dit d'aller soulever tes bras dans les rues d'Abidjan ou dans ta maison, de garder tes mains levées. Ça ne va rien faire. Ce que Dieu veut te dire, c'est crier à lui constamment. Maintenant, invoquer, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a l'adoration, il y a la louange, il y a des prières. En fait, tout ce que tu veux. Amen. Mais c'est le plus important, c'est que dans la détresse, appelle Dieu. Dans la détresse, reste avec lui. Dans la détresse, il faut prier, il faut parler. Lorsque tu vas te taire, lorsque tu vas arrêter de prier, quand l'angoisse te prend, si tu ne parles pas à Dieu, Seigneur, vraiment, étends ta main, guéris-moi de la douleur. Quand la tristesse vient t'envahir, que tu dis, mais regarde, ça fait que tu vas continuer à souffrir combien de temps ainsi? Tous les mois, c'est compliqué pour payer ton loyer. Tous les mois, tu ne sais pas comment tu vas manger. Ah, jusqu'à quand? Et pourquoi Dieu te laisse dans une situation? Quand ton âme s'apprête à être abattue comme ça, à cause de la longue attente, fais une chose, ne laisse pas ces pensées-là demeurer. Ne dors pas avec ça. Lève-toi et prie. Lorsque les disciples étaient confrontés à cette pression maléfique, Jésus n'est pas resté dans le bas en train de faire de la causette pour dire la promesse de Dieu va s'accomplir. Il ne s'est pas assis, croisé les pieds pour dire les gars, mangeons. Quand la pression a commencé à venir, quand Jésus a vu Amalek, Jésus est monté sur la montagne et il a dit ceci clairement aux disciples. Priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Les disciples n'avaient pas envie d'abandonner Jésus. Pierre a lui-même dit à Jésus, je ne te renierai jamais. Mais il n'était c'est pas que quand tu vas à Malek, ce n'est pas ta décision. Il y a ce que tu décides et il y a la pression amalécite. Elle ne badine pas. Donc quelquefois tu es orgueilleux, tu te crois trop puissant. Tu dis, moi, renier mon Dieu, jamais. Jamais. Amalek va te faire aller avoir un Ismaël. Amalek, Jésus, quand Jésus a dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe-là s'éloigne de moi. Mais dans sa prière, c'est un autre raccourci, une forme d'Ismaël. Il dit, bon, initialement, il était prévu que j'aille à la croix. Mais Dieu, tu peux tout. Est-ce que tu es obligé de passer par la croix? Est-ce qu'on ne peut pas passer? Mais pourquoi Jésus prie comme ça? Jésus qui a toujours fait parfaitement la volonté de Dieu, pourquoi soumet-il à Dieu un plan B? Il dit, Dieu, il y a un plan B. Il y a le plan A, je porte le péché de l'humanité, je vais à la croix. Mais Dieu, tu peux tout. Tu peux faire plan B. Mais au moins, il a la force de dire, non, mais pas ce que je veux. Mais ta volonté, Seigneur. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'Amalek. Amalek te propose les plans B. Et si tu ne regardes pas bien, il grossit le B là, plan B, 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 B. Tu ne regardes pas, il grandit encore B, il met ça en rouge, B. Je dis, est-ce que ça peut être la solution de Dieu? Et Jésus dit, non pas ma volonté, mais les disciples. Amalek est tellement pressant. La Bible dit en Luc 22, verset 45, vous savez qu'est-ce qui a fait dormir les disciples? En Luc 22, 45, il a dit qu'ils se sont endormis de tristesse. Luc 22, je commence au verset 40. On dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Verset 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Les disciples ne sont pas endormis parce qu'ils étaient fatigués. Ils étaient tristes. C'est Amalek. Ils avaient de bonnes décisions, la bonne décision de rester ferme. Mais tu es fatigué. Donc tu ne pries pas, tu couches quoi. Ils sont couchés et puis hey, tu veux plus, tu sais même plus ce que tu as dit à Dieu. Parce que la prière avec Amalek, c'est quoi? C'est que la Bible dit que tant que Moïse gardait la main levée, Amalek était vaincu. Mais quand Moïse abaissait la main, donc ce jeu de va-et-vient, lever, abaisser, lever, en fait c'est fatigué. Quand tu te dis, mais Dieu, j'ai levé une fois. Il faut considérer que ma main est déjà levée. Tu as prié combien de fois? Et puis tu es Amalek en même temps. Donc tu as envie de. Tu dis, on dit il faut lever la main. Tu lèves une fois. Tu dis, Dieu est tout puissant. Je passe à autre chose. Non. Quand tu as baissé pour mettre dans ta poche pour partir, là, Amalek va reprendre le devant. Et c'est ça cette pression. Ce n'est pas ta prière d'hier, c'est ta prière de l'instant. Amalek est un combat spirituel, est une pression de tout instant. Quand tu relâches, Amalek prend le devant. Quand tu pries, ton moral prend le dessus. Quand tu relâches, Amalek prend le dessus de ton moral et ton esprit. Tu dois rester dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, lorsque tu es confronté à ce qu'on appelle les pressions d'Amalek. Amen. Elles n'arrivent pas tout le temps, mais lorsque ça arrive, reconnais-les et reste en prière. Prie en langue pendant que tu marches. Prie. Cherche Dieu. Adore-le, viens à l'église. Amalek va te dire, va pas à l'église. Pendant qu'Amalek arrive, on n'a plus envie d'aller à l'église. Il faut aller à l'église. Quand Amalek arrive, on a envie de quitter son département. Va dans le département. Quand Amalek arrive, on n'a plus envie de chanter. On dit, non, il faut que je me retire. Ne te retire pas. Viens chanter. C'est pas à cause d'Amalek que tu vas abandonner. Garde les mains levées. Garde les mains levées. Ne change pas tes méthodes. Continue d'adorer. Continue de prier. Continue de servir. Amen. Dis à un voisin, n'abandonne pas. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, c'est là, j'arrive sur un des points essentiels d'aujourd'hui. Mais face à la pression d'Amalek, maintenir les mains levées, prier 24 heures sur 24, prier sans cesse, physiquement même, c'est difficile à tenir. Donc, garder son esprit totalement en éveil dans la prière constante et chronique vis-à-vis des attaques et des pressions amalécites, physiquement, ça devient difficilement tenable. Lorsque Moïse baissait les bras, la puissance d'Amalek prenait le devant, prenait le dessus. Alors, deux disciples qui étaient avec lui, Aaron et Hur, après l'avoir observé, ont compris ont vu la clé du sujet. Ils ont dit, comment régler le problème? Ils ont donc approché une pierre, le rocher. Et on a dit que le rocher, c'est Christ. Et ils ont fait asseoir Moïse sur le rocher. Parce qu'ils ont compris que le problème, ce n'était pas le fait de se tenir sur les jambes ou pas. C'était les mains qui devaient rester dressées. Amen. Et ça, c'est le deuxième élément pour vaincre Amalek. Vous asseoir sur le rocher. Amen. Et puis la troisième partie pour vaincre Amalek, c'est quand les deux amis viennent maintenir tes bras levés. Alléluia. Jésus-Christ est monté avec les trois apôtres pour qu'il l'aide. Il dit, venez prier avec moi. D'habitude, Jésus partait prier seul. Mais cette fois-ci, là, il a appelé trois personnes. Il dit, venez, on va prier. Quelque part, il s'attendait de leur part un soutien. Mais ces gens-là se sont endormis. Le cas de Moïse, au moins Aaron et Hur n'ont pas dormi. Ils ont pu le soutenir. Mais quand vous lisez le texte, même quand les disciples n'ont pas pu aider Jésus, malgré le fait qu'ils n'ont pas pu l'aider, Dieu a envoyé des anges pour le soutenir. On vient de le lire. Amen. C'est la troisième chose. Quand vous, après vous êtes assis, Dieu enverra ses anges. Et ça, je le dirai dimanche prochain. Dieu enverra ses anges. Je vais t'expliquer comment tu les vois, comment tu sais qu'ils sont arrivés. Amen. Il faut ça pour terrasser Amalek. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen. Ah, je ne vous sens pas bien. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Donc, gardez les mains levées, mais je ne prie pas à garder cette position indéfiniment. Amen. Maintenant, voici comment la bataille se passait. Pour qu'on comprenne mieux la position assise que Moïse devait adopter, il faut qu'on comprenne. La Bible dit que quand Moïse baissait la main, Amalek avait le dessus, n'est-ce pas? Tant que Moïse gardait la main levée, Israël avait le dessus. Donc, moi je crois, et la Bible dit que la guerre a duré jusqu'au soir. C'est une guerre qui a fait toute une bataille qui a duré toute une journée. Dites-moi, si Moïse, depuis le matin, avait gardé la main levée, est-ce que la bataille allait durer jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la nuit? Parce que s'il arrivait à maintenir ses mains levées, Israël allait constamment prendre le dessus jusqu'à finir avec ses ennemis. Mais le fait, ce mouvement-là d'oxyation a fait perdurer le combat. Lorsque les amis ont vu, ils ont choisi la solution. Ça veut dire que si depuis le début, on avait fait asseoir Moïse, on lui avait gardé les mains levées, Israël aurait fini par triompher beaucoup plus tôt d'Amalek. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen. En fait, le fait de s'asseoir, je vais expliquer ce que ça signifie spirituellement, va faire que votre victoire sur l'épreuve 4 ne sera pas différée. Écoutez, on ne peut pas approcher, bon, quand on dit, le temps fixé de la promesse, ce n'est pas une date, c'est une période en fait. Plus tard, peut-être un jour, si j'enseigne sur les saisons et les temps, si je reviens là-dessus, je vais expliquer. Quand Dieu dit mon temps, c'est une période. En fait, quand un fruit est mûr, il y a une période où il est comestible. Ce n'est pas un jour, on dit le 30 avril, à telle heure, la mangue est mûre. Non, il y a une période quand même. Amen. Le temps fixé est toujours une période. On dit la femme va faire 9 mois, mais ça peut faire 8 mois et quelques, 9 mois. Voilà, c'est pas... C'est une période. Le temps fixé est une période. Et c'est pareil. La Bible dit que, pour l'histoire d'Israël, vous devez savoir que Israël devait être esclave en Babylonie pendant 70 ans. 2 à 3 ans avant, le prophète Daniel est monté devant le Seigneur et il a prié. Et les historiens pensent que, à cause de la prière de Daniel, Israël a dû faire 67, 68 ans au lieu de 70. Vous suivez? Voilà, donc dans la période, on peut activer la chose. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Amen. Donc, si tu sais bien interpréter la patience, tu sauras agir au bon moment et savoir à quel moment tu dois déclencher la chose. Ce qui t'aide à faire cela, c'est ce que je vais appeler tout à l'heure, t'assois sur le rocher. Si tu ne t'assois pas sur le rocher, tu peux te mettre en retard. Tu peux perdre encore du temps. La bataille là, tu étais censé vite la gagner, mais tu peux perdre du temps parce que tu n'étais pas assis, tu as préféré, quand on n'est pas assis, on compte sur ses jambes pour tenir debout. Quand on s'assoit, qu'est-ce qu'on fait? On compte sur qui? Sur la chaise, ceux qui sont assis sur la chaise. Donnez un bon amen, je vous sens pas bien. Vous me suivez, ça va? Vous voyez, là vous êtes assis sur des fauteuils, sur des chaises, ok? Vos jambes ne travaillent pratiquement plus. S'asseoir, c'est se reposer sur quelque chose. S'asseoir, c'est faire en sorte que je ne compte plus sur mes jambes. Les jambes sont bonnes, mais lorsqu'on s'assoit, on leur permet de se reposer. Et maintenant, au lieu de s'appuyer sur nos propres jambes, nous nous appuyons sur une chaise. Lorsque Jésus et Moïse s'est assis sur le rocher, ce que Dieu veut que le Seigneur veut qu'on comprenne, c'est que il a changé d'appui. Quelqu'un, vous me suivez? Il a changé d'appui. Ton désert 4 va dépasser la date si tu n'as pas le bon appui. C'est-à-dire, ta guerre contre Amalek, là, ça va durer en fonction de ce sur quoi tu t'appuies. Bon, il y en a qui ne saisissent pas encore. Dans tout,
tout le monde s'appuie sur quelque chose. En fait, dans la vie, là, on compte sur quelque chose. Mais les appuis sont souvent très subtils. Ça veut dire qu'on ne sait même pas qu'on s'appuie sur certaines choses. Je vais vous expliquer. Amen. J'ai dit que le désert 4 dure un peu plus que prévu si tu as de mauvais appuis. Si tu t'assois sur ce que la Bible appelle le rocher, tu vas permettre à ta prophétie, à ta promesse de s'accomplir en son temps. Et même tu pourras gagner quelques mois ou quelques années. Tu peux avancer un peu le temps. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Alors concrètement, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Amen, amen, amen. Donc, lorsqu'on ne s'appuie pas sur le rocher, on prend du retard. Lorsqu'on s'appuie sur le rocher, on gagne un peu de temps où on permet à la chose de s'accomplir en son temps. Donc, quand on s'appuie sur le rocher, on triomphe aussi beaucoup plus vite de la dépression, des angoisses et de la peur, c'est-à-dire d'Amalek. Amalek te frappe pendant trop longtemps et t'atteint. Amalek continue depuis des années à te faire du mal. Parce que tu n'as pas le bon appui. Si tu choisis le bon appui, ton Amalek sera beaucoup plus vite détruit. Amen. Donc le rocher sur le... Donc Christ, s'appuyer sur Christ, parce que s'asseoir sur le rocher, c'est s'appuyer sur Christ. S'appuyer sur Christ nous fait gagner du temps. S'appuyer sur Christ, ou encore je dirais s'abandonner. Parce que quand tu t'assois sur la chaise, tu t'abandonnes à la chaise. Tu dis, j'ai confiance en toi. Si la chaise se casse, tu es par terre. Mais tu as confiance qu'elle ne cédera pas. Quand tu regardes une chaise, tu vois qu'elle est louche, tu ne t'assieds pas là-dessus. Amen. Amen. Donc celui qui s'assoit sur un siège a une confiance. Amen. Amen. Donc, abandonner, s'abandonner entre les mains du Seigneur nous permet de gagner du temps, de ne pas être en retard. Et vous savez, quand Dieu me parlait sur ce passage du rocher, s'appuyer sur le rocher, en fait, il a zoomé dans mon esprit sur la notion du temps et du retard. Parce que s'appuyer sur Dieu, j'ai fait des milliers ou bien des centaines de prédications là-dessus. Aie confiance en Dieu, ne compte pas sur tes propres forces, compte sur le Seigneur, etc. Et il y a beaucoup de messages qui le disent. Ok, mais le Saint-Esprit va me ramener vers un ancien message que j'ai donné. Et je crois qu'il était aussi, peut-être quand on était encore à la tête communale, c'était le quitter pour posséder. Qui s'en souvient? Quitter pour posséder parle de l'histoire d'Abraham. Je dis, il faut quitter pour posséder. Amen. Mais Abraham, dont nous prenons l'exemple, vous savez, Abraham est super. La vie d'Abraham est pleine de richesses. Vous voyez un homme qui se débat pour accomplir une promesse de Dieu. En fait, Abraham, c'est notre vie. C'est pourquoi il est le père de la foi. Il traduit quelquefois nos expériences. Amen. Et on est souvent surpris de voir que Abraham a eu l'enfant qu'il avait lorsqu'il avait 100 ans. On dit, waouh, Dieu l'a fait vraiment attendre. Hein? Mais je crois que ça aurait pu ne pas atteindre 100 ans. Ça aurait pu se faire un peu plus tôt. Abraham, à un moment dans sa vie, a pris du retard. À un moment de sa vie, il a pris du retard. Et le retard qu'il a pris, c'est ce que je traduis par le fait de ne pas s'appuyer sur le rocher. C'est-à-dire que, ce sont les images. Hein. Si Abraham s'était appuyé sur le rocher, comme je dis, il n'aurait pas pu autant de temps. Et l'histoire apparaît dans la procédure ou bien le processus que Dieu a donné à Abraham. Et c'est là que nous allons... c'est avec quoi nous allons finir pour aujourd'hui. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu va lui donner une feuille de route. Quand Dieu vous appelle, il vous donne une feuille de route aussi. Et Abraham ne va pas suivre scrupuleusement la feuille de route. En Genèse chapitre 12, verset 1, et puis Actes des Apôtres chapitre 7, verset 2, il est dit que Dieu a dit à Abraham, on peut le voir à l'écran, Genèse 12, 1, Genèse 12, 1, lisons-le. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de... Oui. 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 Amen. Le pays qu'il va montrer à Abraham, c'est Canaan, c'est la terre promise. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans le pays que je... Quitte la maison de ton père aussi. Dans une version, on dit quitte la maison de... Voilà, dis ça. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père pour aller dans le pays que je vais te montrer. Abraham devait quitter trois choses. Le pays, on va les dire ensemble, un, deux, trois. Le pays, quoi encore? Quoi encore? Amen. Je sais que quelqu'un a envie de me dire, mais pasteur, quitter le pays, quitter la patrie, là, c'est pas la même chose. Non, ce n'est pas pareil. Dis un voisin, c'est pas pareil. Ok. Le pays, si on veut parler physiquement, quitter son pays, c'est par exemple quelqu'un qui, quand tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana, tu as quitté le pays. Quand quelqu'un quitte la Côte d'Ivoire pour aller s'installer en Angleterre, il a quitté son pays. Mais tu peux être en Angleterre sans quitter ta patrie. Amen. Tu n'es plus en Côte d'Ivoire, mais en Angleterre où tu es, tu as amené ta patrie. La patrie, ça parle de l'attachement émotionnel à ton pays. Qu'est-ce que j'entends dire? Si vous partez en Angleterre, vous allez trouver des Ivoiriens patriotes. Ça veut dire qu'ils sont toujours rattachés à leur patrie sans habiter dans le pays. Quelqu'un me suit? Donc, quelqu'un peut être aux États-Unis et être patriote. Il est rattaché à sa patrie. Donc, lorsqu'on dit quitte ton pays et quitte ta patrie, ce n'est pas pareil. Quitter le pays, c'est un déplacement physique. Quitter la patrie, c'est l'attachement que tu as à ton pays. Il faut laisser ça. Quelqu'un dit un bon amen.
Amen.
Donne un bon amen.
Amen.
Par exemple, beaucoup d'Ivoiriens et d'Africains, ou bien même d'Occidentaux qui sont arrivés ici, ont quitté physiquement leur pays. Mais beaucoup d'entre nous quittent le pays sans jamais quitter la patrie. Quand tu vas en Occident et que pour être à l'aise, il te faut à tout prix. Tu dis, mon frère, si je n'ai pas mangé de la tchéké. En fait, tu vois, non, ouais, il faut garba. Tu vois, les gens, ils sont, il faut. Il y a des gars, ils doivent manger leur foutou. Leur foutou, tu sais, il ne faut pas jouer avec ça. Donc, quand ils vont à l'étranger, on dit, on va manger les frites, les chenouilles de ceci, quoi de cela, là. Tout cela, ils ont l'impression qu'ils ne mangent pas. Quand ils font ça là, et ils ne mangent pas. Donc, vous pouvez aller amener une cérémonie, hein, ils vont faire tous ces trucs-là. Quand ils vont rentrer, ils disent, je veux manger. Parce que tout ce qu'il a fait avant, ce n'était pas à manger. Maintenant, il veut manger. Parce qu'il sent qu'il a mangé. Lorsqu'il retrouve les sens, les goûts de son pays. Amen. Voilà. On a des frères congolais ici, non? Dites la vérité. Vous avez quitté le pays, mais est-ce que vous avez quitté la patrie? Hein? Qu'est-ce qu'ils mangent, nos frères congolais? Les sakas, les semoules. En tout cas, Chikwan, quel que soit l'endroit où tu vas. Moi, en tout cas, j'ai visité beaucoup d'églises avec des pasteurs du Congo. Dans tous les repas, il faut qu'on mange congolais. Et les bons Ivoiriens, bon, ça dépend de la région. Voilà. Quand tu es du sud, ton Tchéquien, on ne joue pas avec ça. Donc, chaque fois que tu partes à l'aéroport, ça fait rire, quoi. Tu vois les sacs loulou là. C'est pas habit, c'est pas habit. C'est pas habit, hein. C'est à checker. Et les poudres, ça voyait ça. Et les parents disent quand tu viens là, viens avec. Et ce qu'on a là-bas, là, ça coûte trop cher. Donc vous voyez. Et bon, là, dans le monde, c'est pas mauvais. Il n'y a rien à... C'est pas mauvais. Je veux dire, aime ta patrie. La Bible n'a aucun problème avec ça. Amen. Mais il faut qu'on se transporte dans le monde spirituel pour voir de quoi est-ce que le Seigneur parle exactement. Amen. Quitter le pays sur le plan spirituel, c'est changer de vie, changer de nation, en parlant du monde païen, du pays païen, où on vole, on triche, on tricher même c'est la règle. Une fille, tu as 10 copains, ça même là, on a trop vu, c'est un pays, c'est un système qu'on appelle le monde. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ça correspond à nous, dans notre vie, à quitter le monde. À ne plus être païen. Donc, tu peux venir à l'église sans avoir quitté ton pays d'origine, c'est-à-dire sans avoir quitté ton pays dans le sens que tu es encore dans les choses du monde, tu es encore dans le péché, tu es encore dans la tricherie. La tricherie est toujours une règle de fonctionnement pour toi. Si tu fonctionnes comme ça, même si tu chantes, sache que tu n'as pas encore quitté le pays. Et quand tu ne quittes pas le pays, tu ne peux pas entrer dans la promesse. Se convertir à Christ, c'est changer de pays. C'est quitter le pays du monde pour entrer dans le royaume de Dieu, dans le pays de Dieu. Alléluia. Bouscule le voisin, dit quitte le pays. Voisin, si tu as déjà quitté, dis j'ai déjà quitté, frère. Il y a longtemps, il ne faut pas me fatiguer. Maintenant, si le voisin ne te répond pas, il faut l'encourager. Tu dis, vois, viens, on va quitter. Amen. Non, il faut quitter le pays. Il faut quitter le monde. Il faut se convertir. Jésus nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus change notre vie. Jésus nous fait changer de pays. Et de manière effective, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, Abraham habitait dans un pays qu'on appelle Mésopotamie. C'est pratiquement l'Irak actuel. Abraham habitait dans ce pays. Et Dieu lui a demandé de quitter physiquement cette zone de l'Irak là. La Mésopotamie, c'est l'Irak actuel, dans cette zone là-bas. Et il a quitté cet endroit pour qu'il aille vers Canaan, c'est-à-dire vers Israël, vers la Palestine actuelle. C'est ce que Dieu a demandé à Abraham de faire. Donc physiquement, Abraham est parti. Et puis, quand vous lisez Genèse chapitre 11, Abraham n'est pas directement allé à Canaan. Il y a une chose qu'il n'a pas faite. Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie. Abraham a quitté son pays et il n'a pas quitté sa patrie. Il n'a pas quitté aussi la maison de son père. Le texte dit qu'Abraham a quitté la Mésopotamie ou encore la Chaldée avec son propre papa. Il faut savoir que le nom patrie, patrie ça ne vient pas de pays. Patrie ça vient de pater. C'est le latin, ça vient du pater. Et pater, c'est papa. Donc quand on dit quitte ton pays, c'est quitte physiquement. Mais quand on dit quitte ta patrie, c'est quitter ton père. Mais pas ton père biologique. Amen. Dans le cas d'Abraham, on prend cela comme exemple pour illustrer, pour voir de quoi Dieu lui parlait. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on me suit? Donc Abraham quitte le pays physiquement, il quitte la Mésopotamie. Mais il arrive dans une autre ville qu'on appelle Charan. Charan, ça s'appelle petit. Charan signifie, c'est de l'hébreu qui signifie petit fruit. En fait, ça a plusieurs sens, Charan. Un de ces sens, c'est la notion de petit fruit. Amen. Mais Abraham est parti avec Térak. Le Térak, c'est le nom du papa d'Abraham. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre, Térak, c'est le nom de la patrie d'Abraham. C'est-à-dire, physiquement, c'est son père, mais Dieu dit, quitte ton pater, en fait. Mais Abraham est parti avec son pater. Sa patrie, son papa. Et le papa d'Abraham s'appelle Térak. Maintenant, Térak, quand tu regardes le sens en hébreu, ça signifie retard. Donc, Abraham va rester avec son père jusqu'à la mort de Térak. Et c'est à partir de là qu'il va encore recommencer le chemin. Je crois que c'est cette partie-là, le retard, qui a fait qu'Abraham a pris du retard dans sa vie. Abraham n'a pas su quitter ce à quoi il était attaché émotionnellement, c'est-à-dire son pater, c'est-à-dire sa patrie. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Quand Dieu vous donne une promesse, il faut quitter le monde. Ça, c'est qu'il faut, il faut plus être païen, il faut être chrétien maintenant. Il faut donner ta vie à Jésus réellement. Mais après être converti, Tu peux transporter dans le christianisme, dans ta foi chrétienne, une chose qu'on appelle un terrac ou une patrie. Cette chose-là va te mettre en retard. Le danger avec le pater, la patrie ou le terrac, c'est que ce n'est pas mauvais. Quelqu'un me suit? Le pays, on sait qu'il est mauvais. On sait que je ne vais pas commettre adultère, je ne vais pas tricher, je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire ça. Donc, on abandonne ces choses. Mais on transporte de notre pays certaines méthodes, certaines manières de faire, certaines habitudes. C'est ce qu'on appelle le terrac. Et cela, j'ai illustré en disant, physiquement, je quitte la Côte d'Ivoire. Dieu me dit, Dieu dit à une personne, je te donnerai l'Angleterre, par exemple, comme pays. Dieu te dit ça. Est-ce que tu sais que si l'Angleterre, par exemple, est censée être la nation où tu vas régner véritablement, il y a un moment donné, il faut que tu quittes quand même la patrie. Tu ne peux pas aller posséder un pays comme l'Angleterre si ce que tu faisais de bien en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, peut-être en Côte d'Ivoire, il y a des mauvaises choses, tu as décidé d'arrêter, et tu vas là-bas, prenons une habitude par exemple. En Côte d'Ivoire, c'est dans notre culture. On a appris ça à l'auto-école. On conduit de quel côté de la voie? À droite. Le volant est où? À gauche. Est-ce que c'est mauvais? C'est bon. Maintenant, toi, tu dis tu vas aller en Angleterre. Est-ce que tu peux prendre les règles de la Côte d'Ivoire, la législation de Côte d'Ivoire, et venir dire, moi, là, je suis Ivoirien. Si vous m'avez donné le visa, il faut savoir que je marche en Ivoirien, je vis en Ivoirien, je parle en Ivoirien. Parler, on va te tolérer. Mais amuse-toi à conduire à droite. Eux, ils conduisent à gauche. Eux, ils conduisent à gauche. Toi, dans ta voiture, toi seul dans la rue, à Londres. Toi seul, tu es à droite. Sinon, tu peux créer des accidents. Les policiers vont t'arrêter. On va te retirer le permis. On va te flanquer des amendes. Et je veux dire, pour un problème de règles traditionnelles, tu peux te retrouver en prison dans un territoire qui était le tien. Il y a des gens que Dieu envoie dans des pays, mais qui doivent apprendre simplement à renoncer même à leur façon d'être, à certaines manières. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans des domaines politiques, influencer des nations, parce que ils ne peuvent même pas manger les repas des autres, parce qu'ils n'ont pas changé leur tête. Oui, regardez, pour que Joseph devienne premier ministre d'Égypte, est-ce que vous savez qu'il a quitté sa patrie? Il n'a pas régné sa famille, il a quitté sa patrie. Quand ses frères sont venus le retrouver, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il était habillé en égyptien. Il n'a pas perdu ses valeurs de croyant. Mais ce qui est du domaine de la culture et de l'expérience, il s'est adapté à l'endroit dans lequel il se trouve parce qu'il voulait gagner ces gens-là dans la promesse de Dieu. Mais s'il arrivait là-bas, je suis hébreu, de père hébreu, d'arrière grand-père hébreu, de père hébreu, pharaon, prends-moi comme ça. Chez moi, on mange placali. Allez, à table. S'il n'y a pas placali, je ne dîne pas avec toi. On dit, viens manger chez le roi. Je ne mange pas. C'est quelle nourriture ça? On ne comprend rien dans vos repas là. Le thé. Toujours on boit le thé, le thé, le thé. Et les Anglais aiment le thé. Le thé, le thé. Non, non, on veut abouki. Oui, il est. On dit non, tu arrives là-bas. On t'assoit, tu dis non, laissez vos trucs, amenez-moi café, mes chicorées, on va mettre lait, avec un bon pain. Puis tu manges quoi devant eux, tu dis ça c'est là, ça c'est chez moi. Frère, là où tu es arrivé, là tu resteras. Je veux dire qu'il y a des choses qui ne sont pas mauvaises dans notre passé, qui ne sont pas mauvaises dans notre passé, qu'on a envie de transposer dans notre promesse future, mais qui peuvent être des freins, qui peuvent nous empêcher de voir comme Dieu veut qu'on voit les choses. Dieu ne voulait pas que Abraham amène sa culture mésopotamienne en Canaan, parce qu'il allait lui donner de bâtir un nouveau pays. Et quand Dieu va démarrer quelque chose avec toi, quand tu as un choix de Dieu, il y a des choses que tu faisais avant qui étaient bien. Parce qu'on était païen, mais tout n'est pas mauvais dans le monde païen.
Tu t'es pas c'est là-bas que tu as fait tes études. C'est là que tu as appris ta façon de te tenir. C'est là que tu as appris les certaines bonnes manières. C'est là que l'éducation de tes parents t'ont donné certaines politesses. Tout ça sont des acquis qui ne sont pas forcément négatifs. Mais lorsqu'on arrive dans le royaume, écoutez, je n'ai pas dit que ces choses sont mauvaises, mais certaines, Dieu peut te demander de renoncer à certaines choses. Ta manière de voir doit être redimensionnée pour te permettre d'accueillir la gloire de ta promesse. Est-ce que tu me comprends? Il y a le péché qu'on doit abandonner, mais il y a des choses auxquelles nous sommes rattachés émotionnellement, expérimentalement, culturellement, qui peuvent être des freins au nouveau territoire qu'on doit conquérir avec Dieu. Plusieurs sont en retard dans leurs promesses à cause d'un terrac qui est dans leur vie. Si vous voulez plus de détails sur cet enseignement, prenez l'enseignement sur quitter pour posséder. Amen. Je donne d'autres modèles de terrac. Qu'est-ce que terrac peut être? Mais c'est important. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un très bon amen à Jésus. Amen. Je ne t'entends pas bien. Amen. C'est encore timide. Voilà, là je vous reconnais maintenant. Amen. 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 Tu dois vaincre ton terrac. Et comment tu dois le vaincre? Tu dois quitter. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, terrac. Tu ne m'accompagneras pas. Tu ne m'accompagneras pas. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quel est le lien entre ce terrac et puis le rocher? Nos bonnes habitudes, notre expérience, pourquoi la Bible l'appelle notre pater? En fait, terrac, c'est les bonnes habitudes d'avant, c'est ce qu'on sait, c'est notre expérience, c'est ce qu'on sait dans notre passé. C'est tout ça qui est dans notre terrac. Et puis, quel est le lien? Notre terrac, nos terrac dans la vie, notre patrie, notre éducation, notre manière d'être, nous aide à marcher. C'est ce qui nous aide, c'est ce par quoi nous parlons, c'est ce par quoi nous... Je dis par exemple, c'est mon langage, c'est ma manière de m'exprimer. Pourquoi on appelle ça pater? Parce que pater, c'est père. Père dans le sens que c'est ce qui t'a fait, en fait. C'est ce qui fait de toi, aujourd'hui, ce qui tu es. C'est en ce sens-là qu'on dit c'est ton père. Quelqu'un me suit? Par exemple, on va dire ma langue maternelle. Bon, c'est tout ça, c'est même pater, là. Amen. Mais si je veux conquérir les États-Unis, je dois parler anglais. Pour parler anglais, il faut que je renonce à un moment au français. Pas que je vais oublier le français. Mais je ne peux pas leur demander, rentrer dans la maison, dire, parlez français avec moi, avant de leur expliquer, je suis venu leur vendre un produit. Dieu dit, va là-bas, tu vas vendre le meilleur produit cosmétique. Dieu t'a inspiré le plus grand produit cosmétique au monde. Et tu arrives là-bas, tu dis, prenez-moi tel que je suis, j'explique en français, tu vas prendre un traducteur. Parle. Mon produit est bien. Comment on dit ça en anglais? His product is good. Tout ça, là, mon frère, tu nous perds le temps. Vous voyez, la culture crée du retard. Il faut toujours convertir, s'adapter. Alors, pour gagner du temps, pour rapprocher ta promesse, ce qui est superflu, par exemple, qu'est-ce que ça te fait de parler anglais même? Dis non, je ne peux pas. Depuis que je suis né, on m'a éduqué en baoulé, en bété. On sait, on sait. C'est baoulé qui t'a fait, c'est bété qui t'a fait, c'est le français qui t'a fait. Mais ce n'est pas une vérité absolue. Amen. Le pater, le terrac, c'est ce sur quoi on se tient pour agir. Ce sur quoi on s'appuie pour parler, pour faire notre langage, pour bâtir des entreprises. Quelqu'un veut bâtir une entreprise. Quand tu veux bâtir ton entreprise, tu viens avec quelle expérience? Tu t'appuies sur quoi? Sur ton école, sur ton PhD, sur tes diplômes, sur ce que tes parents t'ont appris, sur tout ce qu'on t'a dit. Tout ça, ça forme le bloc de ton pater et de ton terrac. Et parce que tu ne saisis pas ce que Dieu fait avec toi, tu veux convertir le plan de Dieu dans ton langage à toi. Dieu dit non, c'est à toi de quitter ta patrie pour voir comme je veux que tu vois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque tu renonces à ça, ça n'est pas dit que tu ne vas plus jamais utiliser, mais c'est-à-dire que ce n'est plus pour toi ton moyen de fonctionnement. C'est ce que la Bible traduit en disant, tu ne t'appuies plus sur tes propres forces, mais tu te reposes entièrement
pas sur quelqu'un d'autre, mais pour ce qui est du royaume des cieux, pour ce qui est de la volonté de Dieu, tu te reposes sur Christ. C'est ça, s'asseoir. En fait, s'asseoir, est-ce qu'on est ensemble? Amen. S'asseoir, c'est, Seigneur, avant, je savais que ça, ça donnait ça. Je faisais ça. Mais je m'abandonne à toi. Je ne fais plus confiance. Je ne m'appuie plus sur mes propres connaissances, sur ma propre sagesse, sur ma propre manière de voir, sur ce que mes parents m'ont appris, ce qu'on m'a appris à, comme on m'a appris à juger tel événement de temps. Je revois tout ça. On t'a dit que tel est mauvais, tel n'est pas mauvais. Ça, on peut, mais quand tu es en Dieu, tu dois tout reformater. Tu dois tout reformater et les amener à la lumière de Christ. C'est en ce moment-là qu'on dit tu as quitté ton terrac. C'est en ce moment qu'on dit tu t'appuies et tu t'assois, tu ne comptes que sur Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Dis à un voisin, assieds-toi sur le rocher. Assieds-toi sur le rocher de Jésus. Amen. Dépends de Dieu. Aie confiance en lui. S'asseoir, ce n'est plus compter sur ses propres jambes. Ce n'est plus, ça t'amène à ne plus compter sur ce qui t'a fait marcher jusqu'à présent. Quand tu veux lutter contre Amalek avec ta propre sagesse, avec ta propre, c'est-à-dire que tu vois Amalek, tu as ton raisonnement, tu as ta logique. Amalek, tu vas être épuisé parce que tes expériences ne suffisent pas. Deux, la gloire qui t'attend est d'une telle dimension qu'il faut que toi-même tu te redimensionnes. Vous me suivez? Joseph n'aurait pas pu régner sur l'Égypte s'il ne s'était pas adapté. Ceux qui n'arrivent pas à s'adapter sont des personnes qui sont attachées à ce qu'il a fait eux. Mais quand je dis ce qui est culturel, c'est différent des valeurs. Les valeurs, on ne les abandonne pas. Quelqu'un me suit? Voilà. Je suis né de nouveau. Il n'y a pas un monde d'endroit parce qu'on dit... En Jésus, on n'a pas deux femmes. On n'a pas de polygamie. Tu vas aller dans un pays, tu dis, le pasteur a dit de s'adapter ici. Là, tout le monde est polygame. Chérie, on va avoir deux femmes. Non, non. Là, faut pas changer. Ça, c'est une valeur. On ne commet pas l'adultère. C'est une valeur. Joseph, malgré qu'il était en Égypte, a toujours refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Ce sont des valeurs. Ça n'a rien à voir. Ce sont des valeurs. Mais je parle, la culture, c'est notre manière de nous exprimer, notre façon de nous vêtir, notre façon, c'est la manière apparente avec laquelle on fonctionne. Tu dois renoncer à ça. Ces choses-là nous rendent une forme d'orgueil. Il faut t'asseoir sur Christ et le laisser prendre, diriger ta vie, reformater ta façon de voir. Alléluia. Alléluia. Alors, le ciel va s'ouvrir devant toi. Une fois que tu es malléable, parce que ce qui va venir après, je vais m'arrêter là, dimanche prochain, tu vas mieux comprendre. Je vais toucher un point où on va, je l'ai dit au jeûne et prière, à la fin du jeûne et prière, d'élargir l'espace de notre tente. En fait, Dieu a besoin que tu brises certaines portes pour pouvoir amener plus gros dans ta vie. Parce que ton raisonnement passé ne peut donner que ce que tu as connu comme résultat jusqu'à présent. Il faut revoir la machine. Il faut la faire passer. Et c'est ça le fait de s'asseoir. Amen. S'asseoir, c'est dépendre de Christ. Se poser sur le Seigneur, sur sa mentalité. C'est lever les mains. Je lève les mains. Je me repose en Christ. Je m'abandonne en toi. Prends le contrôle de tout. Je ne vais plus diriger ma vie. Si aujourd'hui, avant pour bâtir une grande entreprise, il faut avoir PhD. Que j'ai PhD, que je n'ai pas PhD, je ne compte pas là-dessus. Parce que tu arrives, c'est certains qui viennent me voir quelquefois, on dit, mais ah, si parce que ça négocie, on arrive à faire autant de choses, c'est parce que c'est un intellectuel, il a fait les grandes écoles. Il y en a qui sont fiers, ils viennent me dire, oui, ce sont les gens qui ont fait les grandes écoles qui font ça. Mon ami, ce n'est pas une affaire de grande école ici. C'est une autre histoire, c'est une autre école. Tu ne peux pas t'appuyer sur ton passé et croire que c'est ce qui va t'aider à prendre tes promesses. Ce n'est pas vrai. C'est seulement le Seigneur. Ton passé, Dieu peut s'en servir quand il veut. Bien sûr que ma formation scolaire m'a aidé. Que quelquefois, le Saint-Esprit va prendre quelque chose que j'ai appris pendant ma formation et puis dit, utilise ça ici. Mais je ne m'appuie pas là-dessus. Je ne crois pas que c'est parce que j'ai été étudiant dans ceci
que ce soit marché. C'est pareil pour vos entreprises, c'est pareil pour votre famille, c'est pareil pour votre maison. Vos promesses vont être retardées tant que dans votre esprit, vous comptez quelque part sur votre petite intelligence personnelle acquise dans votre patrie, par votre patrie. Si vous comptez là-dessus, vous allez prendre du retard dans vos promesses. Votre famille, votre foi va prendre du retard. Il y a des choses, Dieu te dit de changer. Il a promis un bonheur dans ton foyer. Mais ça fait quoi? Tu dis, chez moi, la femme ne fait pas quoi là? Femme ne fait pas ça. Mais est-ce que la règle est universelle même? Il y a quoi même? Mais si tu changes ça pour que vous ayez le bonheur, qu'est-ce que ça fait? Hein, quand j'arrive chez moi, ma femme doit toujours enlever mes chaussures. Ça, ben ton papa a fait ça. Ton grand-père a fait. On a fait. Si ta femme veut enlever les chaussures, gloire à Dieu. Mais je veux dire, il y a des gens de choses comme ça qui nous empêchent de vivre le vrai bonheur de Dieu et qui nous créent des dépressions inutiles. Des pressions. Tu te fâches parce qu'on a enlevé tes chaussures aujourd'hui. Ça fait quoi? Parce qu'on a mis ta fourchette à gauche, on a mis ça à droite. Qu'est-ce que ça fait? C'est Jésus de la culture. Et Jésus de la culture. Si ta maison se plie à ça, gloire à Dieu. Tu leur fais comprendre ça patiemment. Mais ça paraît simple. Mais je vous assure que ce genre de petits principes créent beaucoup la dépression, la colère, l'irritation. Ils sont des terrains favorables à l'abattement de Amalek. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va s'arrêter là. Tu vas rester assis sur le Christ. Mais c'est ta chaise quoi. Ta chaise n'est pas Jésus. Hein. Mais on va rester assis cette fois-ci. Pour dire, je m'appuie sur toi. Et puis on va garder les mains levées. Et nous appuyer sur le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. J'ai cité un peu en gros, j'ai essayé d'avoir quelques éléments de détail, mais le Saint-Esprit est capable de te dire qu'est-ce qui te met en retard. Ce sur quoi tu t'appuies, ce sur quoi ta vie est bâtie. Qu'est-ce qu'il appelle ton terrain à toi? Appuie-toi sur le Seigneur maintenant. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, je m'assois sur toi. Asseyons-nous sur le rocher de Christ. Reposons-nous sur lui. Et non sur notre savoir, et non sur notre intelligence, et non sur nos acquis passés.
Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message. Car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du pasteur Mohamed Tsanogo, tels que la mentalité des vainqueurs, retrouver son identité, sont à votre entière disposition. Contactez-nous au 22 41 29 80 ou au 02 61 30 63 ou écrivez-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org. Nous vous invitons également à visiter notre site www.collectiontransformation.com. Merci et à très bientôt.